Bonjour, bonjour à tous. C'est toujours une joie de nous retrouver autour de la parole du Seigneur chaque dimanche. Et ce dimanche, je suis particulièrement heureux de ce que j'ai entendu et de ce qui a été amorcé cette semaine. Cette main tendue, ce pardon, cette réconciliation amorcée entre l'Église et puis notre frère, notre sœur, Yvan, Babette. C'est vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un qui est content là-haut, et parce que c'est ça qu'il attend de nous. C'est ça qu'il attend de nous. Il dit, moi non plus je ne te condamne pas. C'est ce qu'il a dit à cette femme adultère qu'on lui a amenée pour être condamnée. Moi non plus je ne te condamne pas. Et dans l'Épître aux Romains, il nous dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont à Christ. Et il nous demande d'offrir le pardon, la réconciliation et d'avancer ensemble. Et là, nous sommes dans sa volonté. Et c'est vraiment une joie d'entendre cela. Mais alors ce matin, j'avais une question à vous poser. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin? Mais dites-le-moi, parce que moi, je connais quelqu'un qui est très riche. Il est milliardaire, très généreux, qui peut donner, qui peut combler tous vos besoins. En Afrique, à une période, il y a eu un phénomène qu'on appelait les fémans. C'est des gens qui avaient plein d'argent. On avait un doute sur l'origine de cet argent, mais il arrivait quelque part. Il donnait, il distribuait des billets à tout le monde, et puis on était content. Et puis il repartait. Mais quelques temps après, on retombait dans notre frustration parce que l'argent était fini. Il faisait preuve de générosité, même si on ne cherchait pas à savoir quelle était l'origine de leur richesse, de leur argent. Mais la personne que moi je connais a beaucoup de richesses. Et c'est honnête ce qu'il a. Et il peut donner. Et il peut donner parce qu'il donne avec abondance, avec générosité. C'est pour ça que je vous demande ce matin, de quoi avez-vous besoin? Et je lui dirai, et il vous comblera. Cette personne, il est capable de faire en sorte que vous ne manquiez plus de rien. Cette personne, vous m'avez compris, c'est Jésus-Christ. Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Et je veux vraiment qu'on se tourne vers les Écritures, vers un psaume que nous connaissons tous, le psaume 23, qui est un cantique de David, qui va s'afficher, nous allons le lire dans la version 8 secondes. Cantique de David, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Un psaume très connu et que nous avons l'habitude de méditer, de réciter, de répéter à longueur de journée. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est que trop souvent, on répète ce verset et cette parole, et on se focalise, et moi le premier, sur la deuxième partie de ce verset, « Je ne manquerai de rien ». Mais souvent, on oublie la première partie du verset, « L'Éternel est mon berger ». Que fait-on de cela? Est-ce que l'Éternel est vraiment ton berger aujourd'hui? Parce que pour que tu ne manques de rien, il y a certaines conditions. Et la première, c'est que tu fasses de l'Éternel ton berger. Vous savez, c'est un peu comme quand on signe un contrat d'assurance. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse, et c'est écrit en gras. Mais en tout petit caractère, il y a ce qu'on appelle les conditions particulières. Et généralement, on ne les lit pas. On ne prend pas le temps de regarder ces petits... Et c'est en petit caractère, cela. On ne prend pas le temps de regarder les conditions particulières. Oui, quoi faire? Comment faire pour que je ne manque plus vraiment jamais de rien? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est cette parole du psaume 23 est devenue pour nous, aujourd'hui, un cantique très célèbre, chanté et répété par tous à longueur de journée. Ce psaume de David est même devenu une sorte de devise proclamée par tout croyant digne de ce nom. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà ce que déclare David au verset 1 de ce psaume. Mais si l'Éternel est notre berger, le berger qui donne du repos, qui dirige, qui restaure, qui conduit et par conséquent qui ne nous refuse rien, comment expliquer alors aujourd'hui les souffrances et les besoins qui nous poursuivent au quotidien? Besoin de travail, d'argent, de mari, de femme, d'enfants, de nourriture, de santé, de paix. Si l'Éternel est notre berger, quel type de brebis sommes-nous? Des brebis fidèles ou celles qui cherchent à chaque fois à échapper à leur maître? Que faire de cette parole pourtant rassurante du psaume 23? Et peut-on continuer à croire en cette parole dans un contexte social aussi dégradé que le nôtre aujourd'hui? Peut-on y croire véritablement? À l'époque des gilets jaunes, aller dire à un gilet jaune, « Oui, tu ne manqueras de rien, l'Éternel est ton berger. » Vous avez intérêt à courir vite. À l'époque des émeutes de la faim, de la crise migratoire et autres catastrophes humanitaires qui sévissent dans le monde, que peut-on faire de cette parole, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien aujourd'hui » David, qui écrit ce cantique, était-il lui-même dans l'abondance permanente? Ne manquait-il de rien lorsqu'il a adressé ses paroles à Dieu? Les Écritures nous rapportent pourtant que David a connu bien des misères et de galères dans sa vie. Il a subi des persécutions tout au long de sa vie. Comment comprendre alors son message? L'une des choses à comprendre ici, c'est qu'en réalité, cette parole de David nous évoque deux idées fondamentales que tout croyant doit connaître aujourd'hui, afin que les chrétiens ne restent plus dans la frustration et la déception. La première idée est que si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons véritablement de rien qu'à condition de lui faire totalement confiance. Nous ne manquerons de rien que si nous nous laissons guider par lui. Et c'est là le problème. C'est que nous déclarons volontiers que l'Éternel est notre berger, mais nous nous laissons conduire en réalité par d'autres maîtres. Nous déclarons que l'Éternel est notre berger alors que nous sommes des brebis infidèles. Comment faire pour que l'Éternel soit notre seul et unique berger? Telle est la vraie question. Et la deuxième idée à retenir, c'est que l'absence de manque évoquée ici ne signifie pas la fin des difficultés ni des besoins, mais garantit la présence effective de Dieu qui, au moment des besoins, viendra nous aider à les combler. Et c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas compris cette vérité qu'ils sont devenus aujourd'hui des chrétiens frustrés et déçus. Beaucoup de croyants ont abandonné l'Église aujourd'hui pour le motif de non-exaucement de leurs prières. Dieu ne m'a pas exaucé, alors je m'en vais. Et en grande partie parce qu'ils pensaient que leur foi en Dieu suffirait à la satisfaction de tous leurs besoins, oubliant qu'il y a non seulement une manière de demander à Dieu, mais que tout dépend aussi de la qualité des besoins que nous présentons devant l'Éternel. Mon but alors ce matin, chers frères et sœurs, c'est vraiment de montrer que si nous considérons l'Éternel comme notre berger, nous ne manquerons de rien que si nous nous laissons vraiment guider par lui. Nous ne manquerons de rien que si nous demeurons des brebis fidèles. Nous ne manquerons de rien que si nos besoins s'accordent à la volonté de Dieu. Mais nous manquerons de tout, et principalement de sa grâce, si nous nous détournons de lui. Voilà pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que si tu ne veux manquer de rien, ne manque pas de foi en l'Éternel, ton berger. Si tu ne veux manquer de rien, ne manque pas de foi en l'Éternel, ton berger. Oui, fais de l'Éternel ton berger et tu ne manqueras plus jamais de rien. Fais de l'Éternel le berger de ta vie et il te comblera. Fais de l'Éternel ton guide et il dressera pour toi une table remplie de bénédictions et de grâces. Fais de l'Éternel ton berger et tu auras l'essentiel. Mais alors, c'est quoi un berger? Quelles sont les principales fonctions d'un berger? Et pourquoi est-il si important de faire de Dieu notre berger aujourd'hui? Voilà entre autres quelques questions que je souhaite aborder avec vous ce matin à la lumière de ce psaume 23. L'enjeu étant, chers frères et sœurs, de permettre à chacun d'entre nous de comprendre la nécessité qu'il y a à faire de l'Éternel notre guide, celui qui non seulement nous conduit à bon port, mais aussi nous comble de toutes sortes de bienfaits. Si tu ne veux manquer de rien, ne manque pas de foi en l'Éternel, ton berger. Alors, avant d'aller plus loin, il est intéressant de comprendre ce que c'est qu'un berger. Un berger, c'est une personne chargée de guider et de prendre soin des troupeaux, de moutons ou de bétail dans les prairies ou les zones montagneuses. Elle est souvent aidée, cette personne, par un chien, le chien de berger, et par un bâton, le bâton de berger. Le berger est donc appelé à accomplir plusieurs tâches dans sa fonction. Et ce sont ces mêmes tâches que l'Éternel, en tant que notre berger, peut exécuter pour nous. Dans ce psaume 23, nous pouvons relever quatre principales tâches que le Dieu berger réalise pour ses brebis. Il donne du repos, il dirige, il restaure et il conduit. D'abord, l'Éternel berger accorde du repos à ses brebis. La parole dit « dans des prairies verdoyantes ». Le verset 2 nous dit « grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes ». C'est-à-dire là où règne le calme, la paix, la tranquillité. Ce n'est pas dans le désert, ni dans un endroit aride, mais c'est dans des prairies verdoyantes que sont des lieux qui sont des lieux qui respirent la paix et la douceur. C'est là, à ces endroits-là, que le berger conduit son troupeau. Ce lieu verdoyant est aussi propice pour faire paître les brebis et pour les désaltérer. Voilà la première tâche. La deuxième tâche du berger, c'est de diriger. C'est-à-dire de donner une direction. Nous lisons au verset 2, « Il me dirige près des eaux paisibles ». Le berger ne dirige pas ses brebis n'importe où, mais vers une direction bien précise et pour un but bien déterminé, pour qu'elles puissent étancher leur soif. Il les dirige près des eaux paisibles et non près des eaux troubles qui peuvent effrayer et perturber le troupeau, alors que les eaux paisibles apaisent, rassure et inspire confiance. Et ainsi, les brebis peuvent s'y désaltérer en toute quiétude. Le berger donne donc à ses brebis la bonne direction, celle qui apaise et qui rassure. La troisième tâche du berger, c'est de restaurer l'âme, c'est-à-dire la revigorer, renouveler ses forces en lui donnant le nécessaire pour pourvoir à ses besoins élémentaires, tels que boire, se nourrir, afin de lui redonner vie. Au verset 3, il est dit « Il restaure mon âme ». C'est-à-dire, il redonne vie à mon âme en la nourrissant, en étanchant sa soif par la source d'eau vive qui est la parole de Dieu. Le psaume 42, par ailleurs, nous dit dans les deux premiers versets, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu. » Le rôle du berger, c'est donc aussi de restaurer une âme assoiffée et affaiblie en la nourrissant de la parole de Dieu. La quatrième tâche, enfin, du berger, c'est de conduire. Le verset 3 dit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Conduire, c'est mener d'un lieu à un autre. C'est piloter, amener, diriger. Et ici, le berger ne conduit pas vers des sentiers tortueux, mais dans des sentiers de la justice. Dans des sentiers droits, parce que lui-même, ce berger, est un berger de justice. Son nom étant justice, il ne peut que nous conduire dans des sentiers justes, de justice, parce qu'il ne peut pas se renier. Voilà les quatre tâches que notre berger accomplit en faveur de ses brebis. Et ce berger, vous l'avez compris, c'est Dieu. Ce berger, c'est l'Éternel. Ce berger, le seul qui est capable d'agir aussi bien et de prendre aussi bien soin de ses brebis, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous dira plus tard, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais ce berger qui assure à ses brebis une conduite et une direction aussi parfaite, ne se limite pas simplement à son rôle de guide. Il rassure aussi son troupeau par sa présence permanente. Une présence rassurante qui chasse la peur, même dans les ténèbres de la mort. David, en fuyant le roi Saül qui était à sa poursuite, s'est retrouvé à un moment donné au fond d'une caverne, autant dire dans la vallée de l'ombre de la mort. Et même dans cet endroit improbable, Dieu est venu à son secours et il l'en a délivré. L'image de la vallée de l'ombre de la mort, ici, au verset 4, nous évoque aussi quelque part l'idée d'une omniprésence de Dieu. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est présent pour nous rassurer. La vallée de l'ombre de la mort est un symbole pour désigner un lieu sombre, solitaire et périlleux. On y voit aussi le chemin du séjour des morts. C'est aussi un peu comme la vallée de Baca évoquée dans le psaume 84, un lieu de tristesse, de souffrance, encore appelé par certains la vallée des pleurs. Le verset 4 de notre psaume nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Oui, l'Éternel berger est avec nous, même dans des endroits aussi sombres, aussi improbables que cette vallée de l'ombre de la mort. Et il est d'autant mieux placé pour le faire que son propre fils Jésus-Christ a vaincu cette vallée de la mort en ressuscitant le troisième jour du tombeau dans lequel il a été posé quelques jours auparavant. Nous aussi, nous traversons dans nos vies des vallées de l'ombre de la mort. Et nos vallées, ce sont nos souffrances. Ce sont les épreuves par lesquelles nous passons. Nos vallées de l'ombre de la mort, ce sont peut-être les maladies qui nous accablent. C'est peut-être l'accident grave par lequel tu es passé. C'est cela, nos vallées de l'ombre de la mort. Et à chaque fois, dans ces vallées de l'ombre de la mort, l'Éternel est venu nous rassurer ou nous délivrer. Moi, à un moment donné de ma vie, je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort. À 10 ans, après 3 opérations, les médecins étaient pessimistes. Ils avaient déjà déclenché le compte à rebours pour moi. Mais j'ai reçu, je l'appelle une guérison divine. Et me voici ici. Oui, mais Dieu est venu m'en délivrer. Qui n'est pas passé par cette vallée? Soit par la maladie, le chômage, le deuil, le divorce, etc. Qui n'est pas passé par cette vallée des pleurs? Mais si nous sommes là, c'est parce que chaque fois, Dieu est venu nous rassurer et nous délivrer. Nous avons donc en l'Éternel un berger qui non seulement nous assure une bonne direction, mais aussi nous rassure par sa présence. Le verset 4 nous dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». La houlette, c'est cette sorte de petit crochet en forme de houe qui se trouve à l'extrémité du bâton que tient le berger. Elle est utilisée pour ramener les brebis qui s'écartent du troupeau. Le berger peut, à l'aide de la houlette, ramasser et lancer les pierres en direction des brebis éparpillées pour qu'elles reviennent vers le groupe. La houlette sert aussi à saisir aisément la brebis sans se baisser ni effrayer par son approche afin de lui administrer les soins. Cette houlette que tient notre berger n'est donc pas faite pour effrayer, mais pour rassurer les brebis et les garder dans le groupe. Le bâton, quant à lui, c'est ce long morceau de bois rond que le berger tient à la main. Il facilite la marche du berger et le soulagera de sa station debout par appui du corps, en avant comme un trépied, c'est cela. C'est aussi un symbole d'autorité, quelque part, le bâton de commandement, qui permet au berger de conduire son troupeau avec assurance et autorité. Et ce bâton, à l'instar de la houlette, n'est pas fait pour infliger une quelconque correction au bétail, mais pour les rassurer. Et dans ce verset 4, nous pouvons aussi faire une remarque. C'est que David va s'adresser à Dieu à la deuxième personne du singulier. Il va dire « tu » à partir du verset 4. Il va utiliser le « tu ». Alors qu'avant, au début, il parlait de Dieu à la troisième personne. « Il », comme si ce Dieu était impersonnel, comme s'il était détaché de lui. Mais parler du berger à la deuxième personne du singulier est significatif pour nous. Cela marque la proximité, l'appropriation et la confiance que David place désormais en ce Dieu berger. Il fait du berger non plus quelqu'un d'impersonnel, mais le berger devient son berger. Et cela nous indique à quel point nous aussi, nous avons besoin de faire de Dieu notre berger personnel, celui qui conduit nos vies, en qui nous mettons notre confiance pour qu'il agisse véritablement au milieu de nous. Mais la question est de savoir, aujourd'hui, fais-tu de l'Éternel ton berger? C'est-à-dire, lui confies-tu ta vie dans tes grands, mais aussi dans les petits projets? Car si tu ne veux manquer de rien, il est important que tu te laisses conduire par ce berger qui te connaît mieux que toi-même. Jésus dit, dans Jean chapitre 10, verset 14, « Je connais mes brebis. Laisse-toi donc conduire par ce berger qui te connaît, et tu ne manqueras de rien. » Et ne manquer de rien ne veut pas dire qu'on n'aura plus de besoin quelconque. Ne nous trompons pas. Ne manquer de rien veut dire que l'Éternel lui-même va se charger de réorienter tes besoins. Il va les conduire vers des besoins essentiels, utiles et nécessaires, afin de mieux les combler. Manger, se vêtir, avoir des enfants, famille, santé, la paix, etc. Car s'il est vrai que nous avons des besoins, il faut cependant qu'on soit honnête et qu'on reconnaisse que beaucoup de nos besoins sont inutiles et superflus. L'Éternel s'occupe de combler nos besoins utiles, nécessaires et essentiels. Ne demandez pas à Dieu de combler votre besoin de fumer ou de vous enivrer d'alcool. Il ne le fera pas. Matthieu chapitre 6 nous dit au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni votre corps, de quoi vous serez vêtus. » La parole ne dit pas ici, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous fumerez ou de votre bouteille de vin. » Non, il parle de nourriture, de vêtements, des choses essentielles. La parole évoque des besoins nécessaires. Mais or, combien de fois nous inventons des besoins qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu? Nous voulons tellement de choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Nous nous inventons tellement de besoins non essentiels que nous avons le sentiment de ne jamais être comblés. Or, pour que tu ne manques de rien, Dieu t'invite à viser l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est utile à ta vie et qui l'honore, et il te comblera. Nous avons l'impression que nous manquons de tout parce que nous désirons mal et parce que nous demandons mal à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Pourquoi ? Dans le but de satisfaire vos passions. Trop souvent, nous pensons avoir des besoins là où nous ne recherchons qu'à satisfaire nos passions. Alors, si nous avons le sentiment que nous manquons de beaucoup de choses, c'est peut-être parce que derrière nos besoins avoués se cachent parfois des motifs inavouables. La satisfaction des passions, par exemple, c'est cela. Parfois, je connais des amis et qui veulent une voiture qui tient la route, une bonne voiture, je veux une bonne voiture. Et en discutant avec eux, tu te rends compte que son besoin de voiture, ce n'est pas pour aller au travail ou pour faire quelque chose d'utile. Son besoin de voiture, c'est pour montrer à ses potes et à ses amis son signe extérieur de richesse, combien il est bien. Et je lui disais, mais c'est peut-être pour ça aussi que Dieu ne comble pas ces besoins-là. Parce que ton motif n'est pas le bon motif. Nous devons agir sur les vrais motifs de nos besoins et les adapter à la volonté de Dieu, et il nous comblera. Autre chose, c'est que si l'Éternel est ton berger, la parole nous dit, il dressera une table pour toi. Mais au verset 5, il nous dit, Dieu dresse une table. Mais la question est la suivante, quelle est cette table? J'ai cherché à comprendre cette table. Quelle est cette table? Et quelle est cette table que Dieu dresse pour David ici? Et que peut-on trouver sur cette table? Et quel est pour nous le sens même de cette table que Dieu lui-même prend le soin de dresser devant son serviteur? Nous lisons au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Pour assurer à son serviteur David une vie d'abondance, Dieu lui-même prend soin de lui dresser une table. Dieu nous invite aussi à cette table. Il dresse cette table pour quiconque s'attache à lui comme David. Quelle grâce, quel privilège avons-nous de voir que c'est Dieu lui-même, le roi des rois, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, qui dresse pour nous une table. Il se plie en quatre, littéralement, pour nous. Prenons conscience des privilèges que Dieu nous accorde. Imaginez le président de la République ou je ne sais quel roi qui dresse une table pour vous. Et ici, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui le fait. Et c'est Dieu qui te dit maintenant, aujourd'hui, à table. Viens à table, j'ai tout préparé, tout est prêt pour toi. Viens t'installer, viens te régaler, viens te servir. Et que trouve-t-on sur cette table? Sur cette table, il y a de tout. C'est la table de l'abondance. C'est la table de la surabondance. David dit, ma coupe déborde. Tellement il y a des choses dedans, tellement il y a des bénédictions, ça déborde. Et pour nous montrer que Dieu a tout mis sur cette table pour que ses enfants et ses serviteurs que nous sommes ne manquions plus jamais de rien. Sur cette table, nous trouvons tous les plats et toutes sortes de menus pour satisfaire notre faim. Nous y trouvons la joie, la paix, la santé, la nourriture, les vêtements, la famille, les enfants, le travail, la guérison, le repos et toutes sortes de bénédictions. Voilà ce qu'il y a sur cette table. Dieu dresse cette table devant David, mais aussi devant toi, pour que tu ne manques plus de rien. C'est la table du bonheur et de la grâce. Alors, peux-tu refuser un tel festin? Peux-tu refuser une telle abondance? Aujourd'hui, toi qui as faim, Dieu t'invite à table. Il t'invite à te servir sur cette table de la plénitude, pour que tu n'aies plus faim. Et d'autre part, il m'a semblé intéressant de voir l'endroit sur lequel Dieu dresse cette table. La parole nous dit au verset 5, « Tu dresses pour moi une table où ? En face de mes adversaires. » Pas ailleurs, pas chez moi, mais en face de mes adversaires. Pourquoi ? Dieu dresse cette table devant nos adversaires pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas nous priver, nous, ses enfants, de ses bienfaits. Il dresse devant l'adversaire une table sur laquelle il y a tout, tout ce que justement l'ennemi veut nous enlever, afin de lui montrer que c'est lui, Dieu, qui a le dernier mot. C'est lui qui pourvoit là où l'adversaire veut ravir. Dieu donne, alors que l'adversaire passe le temps à vouloir nous enlever ce que Dieu nous donne. L'adversaire veut nous arracher la joie. Il veut nous enlever notre paix. Il veut nous enlever notre santé. Il veut nous enlever tout ce que le Seigneur nous donne comme bénédiction. C'est cela le rôle de l'ennemi. Et Dieu dresse cette table au nez et à la barbe de notre ennemi pour nous dire, là où tu enlèves, moi je viens alimenter. Tu enlèves, moi je viens fournir. Et je fournirai encore, et je donnerai encore et encore, jusqu'à ceux qui n'en peuvent plus. C'est cela. Voilà pourquoi il met cette table devant notre adversaire. Dieu dresse cette table de plénitude devant nos adversaires pour nous amener aussi à faire le choix. Le choix entre l'abondance et le manque. Dieu nous dit ici en quelque sorte, choisissez l'abondance, choisissez la vie, choisissez la bénédiction. David dit, il oint ma tête d'huile. C'est un symbole de bénédiction. Cette huile qui a été déversée aussi sur la tête d'Aaron au pied du mont Sinaï, c'est la même. C'est le symbole de la bénédiction. Choisissez la bénédiction. Dieu dresse enfin cette table devant l'ennemi en guise de protection. Un peu comme pour dire, restez du bon côté de la table et votre adversaire ne vous atteindra pas. Alors, table de plénitude, table de bonheur, table de protection, table de bénédiction. Mais que représente cette table de Dieu pour nous aujourd'hui au final? Cette table de plénitude que Dieu dresse devant nous, c'est Jésus-Christ lui-même en personne. Oui, cette table représente le Christ. Cette table garnie et remplie de toutes sortes de bénédictions et de grâces, c'est Christ, car c'est en lui que nous avons tout. Cette table, c'est Jésus qui, en mourant sur la croix, se dresse devant nous et aussi contre nos adversaires, non seulement pour nous combler, mais aussi pour nous protéger. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Oui, c'est en Christ que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Cette table, c'est le trône de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. On comprend alors mieux pourquoi David dit au verset 6 « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Car cette source de grâce en Jésus-Christ est une source intarissable. C'est jusqu'à la fin de mes jours. Qui peut donc sortir de cette table? Qui peut donc sortir de cette demeure remplie de grâce? Qui peut prétendre se priver d'une telle plénitude? Je pense honnêtement, personne. David a fait son choix ici. Il ne veut plus quitter cette table. Il ne veut plus sortir de cette demeure dans laquelle il trouve tout ce dont il a besoin. À tel point qu'il dit, et il fait cette promesse au verset 6, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Tu m'étonnes. Quelle belle décision que de choisir de demeurer toute sa vie auprès de l'Éternel. Car c'est en lui que se trouve toute plénitude. L'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 1, verset 19, dit « Car Dieu a voulu, parlant de Jésus-Christ, que toute plénitude habitât en lui. » Alors, comme David, allons dans cette demeure en Christ, dans laquelle se trouve toute chose. Et restons-y jusqu'à la fin de nos jours. Et alors, nous ne manquerons plus jamais de rien. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Voilà ce que nous chantons souvent dans un cantique. Mais que cette parole se manifeste vraiment dans nos vies, afin que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, « Enfin, oui Seigneur, ta grâce nous suffit, et nous ne manquerons plus jamais de rien, car nous faisons de toi notre berger. » Chers frères et sœurs, je finirai par cette parole de Ézéchiel, au chapitre 34, versets 12 à 15. Et c'est l'Éternel lui-même qui parle, c'est lui qui s'engage pour ses brebis. Voici ce qu'il dit. « Ainsi, je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Alors, peux-tu refuser un tel berger? Peux-tu refuser de faire partie de ce troupeau? Entrons dans le troupeau de Dieu. Entrons dans ce troupeau et nous ne manquerons plus jamais de rien. Amen. Nous allons finir par ce chant. Je vais inviter les choristes à nous rejoindre.